Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Comme un lundi sur France Inter à 9h40, c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Ne nous spoiler.
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Toutes les haines ne se ressemblent pas, la plus destructrice étant la haine de soi. Et qui déteste-t-on lorsque l'on déteste son propre frère, sinon un peu de son histoire à soi? La rage fratricide, rongée par un amour humilié et par la culpabilité. Ce soir, sur Canal+, commence Les Sauvages, série magistrale sur la fidélité à ses origines et sur la violence étouffée. Deux frères, Foued, l'acteur à succès, Nazir, le malfrat radicalisé, à la croisée de leur destinée, le premier candidat arabe à l'élection présidentielle. Un scrutin en forme de victoire, une victoire en forme de drame. Un enfant d'Algérien à l'Élysée, c'est toute la France qui se fissure, laissant exploser la haine de l'autre ou bien la haine de soi, les deux faces d'un même refoulé. De toute façon, à l'heure où je vous parle, ça n'arrivera pas.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
On est des bougnoules, t'as raison. Des bicots, des gris, des harbis, des moricots, des sidi. On est des barbichons, des ratons. Des frisés, des félagas, des harabouches.
C'est bon, j'ai compris.
Non, t'as pas compris. On est des basanés, des sauvages, des bédouins, des beurs, des crouilles. T'entends ça? On est des crouilles, mon frère.
Et bonjour à tous les deux, Sabri Louata, la trentaine, partie vivre aux États-Unis. Bonjour à vous, de
la
passage.
La vieille trentaine, oui.
La vieille trentaine, il a quel âge maintenant?
36 dans deux jours.
Ah, c'est très vieux. Auteur de la tétralogie Les Sauvages, que vous pouvez maintenant lire en livre de poche. À vos côtés, Rebecca Zlotowski,
bonjour.
La cinéaste qui s'essaye à la série, vous êtes très agaçants tous les deux. Comme coup d'essai, c'est un grand coup de maître. Ça commence ce soir sur Canal+. L'intégrale sera évidemment disponible pour les abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas et qui râle déjà, sachez qu'il y a un petit abonnement qui s'appelle Canal+ Série, ça coûte 7€ le premier mois, et gratos, c'est sans engagement, donc voilà, quand on n'a pas...
Et le premier épisode est en streaming gratuit pendant toute la... à partir de maintenant.
Voilà, ça, c'est pas juste, parce que quand on a vu le premier épisode, après, on ne peut plus décrocher. Je vous dis pourquoi, et d'ailleurs, c'est ma première question, Rebecca Zlotowski, Sabri Louata, je voudrais qu'on parle du rythme. Là, maintenant, tout de suite, je voudrais savoir comment vous avez conçu l'entrée dans cette série, les premières minutes, les 20 premières minutes, les 25 premières minutes, tellement dense, tellement speed, tellement haletante, tellement enfiévrée. Qui veut répondre? Allez-y.
Il fallait vraiment, il fallait d'emblée... c'est un roman, hein, Les Sauvages.
Oui.
Et en fait, même en série, c'est un roman.
Mm-hmm.
C'est notre roman national, réactualisé, dépoussiéré. Et il fallait, dans les romans, il faut faire exister beaucoup de personnages vite. Et on a du temps dans les romans, on en a moins dans la série.
Mm-hmm.
Et je pense qu'à la fois la mise en scène de Rebecca et l'écriture du scénario permet de faire exister très vite beaucoup de personnages.
Rebecca Zlotowski.
Il y a un truc, en fait, dans les catégories latines qui s'appelle la captatio benevolentiae. Comment
ça.
On capte l'attention de quelqu'un? Quand on est cinéaste, on sait qu'on a peu de temps, en fait, pour intéresser les gens. On a 10-15 minutes. Et souvent, en fait, dans le royaume de la série, on se dit, bon, le premier épisode est un peu naze, le deuxième, on commence à s'y intéresser, le troisième, t'es vraiment accroché.
C'est vrai.
C'est pénible. Pourquoi
c'est
est-ce qu'on n'intéresse pas dès le début?
Le propre de ce candidat à la présidentielle, il s'appelle Ider Chaouch, de cet arabe français qui est passé par Harvard, c'est qu'il s'offre le luxe d'interrompre le cours tout tracé de l'histoire. Quoi de mieux pour dire stop ou pour dire non qu'un silence? Débat du second tour à la télévision.
Alors justement, monsieur Chaouch, votre réponse, votre riposte?
Alors je passe.
Calmez-vous, monsieur Chaouch, tout va bien se passer.
Mais je n'ai aucune raison de me calmer, monsieur Noyer. Pendant toute la campagne, on a fait courir un soupçon sur le fait que je ne serais pas tout à fait aussi français que mes opposants. Que ma position en faveur des libertés individuelles, mes années passées aux États-Unis, où l'origine de mes parents me disqualifiait pour présider au destin de mon pays.
C'est bien, mon chéri.
C'était qui le maître des silences dans les débats télé en France? C'était François Mitterrand. C'était François Mitterrand qui mettait toujours 2 ou 3 secondes avant de répondre. Et c'était un coup de maître.
De comédien.
Un coup de comédien.
Bah souvent, en fait, chez des comédiens, on se dit, c'est pas tant le moment de placer le dialogue que comment on gère le temps, comment on vole le temps d'une scène.
Alors, en même temps, les références à Obama sont surexplicites. Sabri Louata, la silhouette, le manteau élégant, la passe de basket, le mot espoir, le graphisme des affiches. Redis, j'aime Barack Obamaisé. Est-ce que c'est une façon pour vous de déraciner le récit?
Non mais bah, c'est, en vrai c'est un peu triste que la seule référence qu'on ait en France ce soit Barack Obama.
Ouais.
Ça prouve à quel point on est loin.
Mais enfin, là,
on demande toujours est-ce qu'on pourrait avoir un président arabe en France. Je leur dis est-ce que Menel a pas réussi avec son foulard à atteindre le, genre le dernier tour de The Voice.
Mm-hmm.
Donc voilà où on en est quand même.
Mm-hmm. Donc c'est pas une façon de déraciner le récit.
Si j'essayais de devenir moi aussi le maître du silence, ça a pas trop marché.
Non mais il y a certainement un horizon américain. De toute façon, il y a un horizon américain, mais évidemment le téléspectateur français qui regarde ce triomphe politique-là ne se dit pas « voilà ce qui se passerait si ». Il se dit exactement ce que vous venez de dire. Ça ne se passera pas. Ça n'est pas possible. C'est ça le miroir que vous tendez l'un et l'autre aux téléspectateurs français ?
Pas non plus, si je peux me permettre, vite fait. Pas non plus, on est pas du tout, on pose des questions. Par exemple, on demande toujours qui sont les sauvages. J'ai envie de dire aux spectateurs, on vous pose la question, qui sont les sauvages? De la même façon, on n'a pas envie de donner des leçons, nous, on a envie de, on travaille, je pense qu'on a tous les deux un agenda politique, en vérité, qui est un agenda de travailler les représentations, de changer le regard. Convertir le regard, ça c'est important. Montrer des Arabes dans des rôles compliqués, dans des rôles, écartelés. Montrer des gens qui doutent. Et surtout les montrer de façon centrale. Les mettre au centre du jeu. Au centre de l'arène nationale. Je pense que c'est ça le geste politique. Mais après, pour ce qui est de la série, elle pose que des questions et franchement, elle radiographie. Genre, c'est comme si on découvrait une veine noire qui courait dans le corps social français et qu'on la radiographiait.
Alors justement, cet arabe qui n'est pas moins français que les autres, c'est insupportable pour l'image que les Français ont d'eux-mêmes ou pour celle que les Arabes ont d'eux-mêmes. Ce sont au fond les deux questions que pose la série, c'est-à-dire que vous racontez des Français qui n'aiment pas les Arabes, vous racontez des Arabes qui n'aiment pas les Français, et dans les deux cas, la figure de l'Arabe qui dit « ceci est mon pays, ceci est mon identité, ceci est ma langue, ceci est ma culture », c'est compliqué.
Vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Je veux pas non plus accaparer la parole.
Vous l'accaparez pas. Il y aura plein de questions pour Ekubeka.
Ouais, parce que sur cette question en particulier, c'était important pour moi de montrer. C'est dur de grandir dans un pays où on n'a pas de représentation de soi-même qui soit valorisante.
Mm-hmm.
Et moi, quand j'ai grandi, je me voyais jamais à l'écran. Je veux dire, moi, racialement, j'ose le mot. Genre, c'est vrai, j'habite aux États-Unis, donc c'est plus facile pour moi
maintenant,
de parler de race.
Maintenant, vous habitez aux États-Unis,
oui.
C'est très récent.
Ça a 5 ans à peu près, voilà. Mais ça m'a permis de voir un petit peu à quel point on a tous intérêt, en vérité, à affronter la vérité. On a tous intérêt à affronter la vérité d'une forme de fracture en France qui existe et qui, moi, du point de vue de la représentation, m'a personnellement a rendu ma construction mentale difficile. Quand on ne se voit jamais à l'écran autrement que sous les traits d'un dealer ou enfin toujours dans des rôles stéréotypés, c'est difficile en fait de se dire. Encore une fois, les représentations, ça a l'air de rien, mais c'est un tueur.
Alors,
silencieux qui tue des vocations.
Qu'est-ce qui se passe quand on se voit à l'écran et que d'un seul coup, c'est un Arabe qui incarne le premier rôle d'une série en France, ce qui n'arrive déjà pas souvent, mais quand en plus ce rôle, il est très valorisant, c'est celui d'un docteur que tout le monde aime dans une série télé, c'est Docteur Franck, joli lapsus.
Et t'es qui toi pour me faire la leçon en fait? Tu fais exactement la même chose. Vas-y, rappelle-moi comment tu t'appelles là, dans tes 10 derniers films, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Franck, putain, tu t'appelles Franck, tu t'appelles Sam, tu t'appelles JB, tu t'appelles pas Moulou, tu t'appelles pas Mohamed, Mourad, non? Tu crois pas que ça commence un petit peu à se voir ?
Là, la question Rebecca Zlotowski, elle est terrible. Parce que nous, on l'attend tous. L'acteur enfant d'Algérien, de Marocain, de Tunisien, qui sera la superstar d'une série française. Mais la vraie question, c'est derrière, est-ce qu'il s'appelle Docteur Mohamed ou est-ce qu'il s'appelle Docteur Franck ?
Bon, d'abord, il y a quand même pas mal. On commence à sentir un début d'aristocratie d'acteurs arabes en France. Heureusement qu'il existe. Tahar Rahim, Reda Kateb, Leïla Bekti, ils existent. Mais dans la tirade là de Lina Koudri, prête sa verve, son sel. C'est marrant parce que de cette tirade-là, j'ai eu l'impression, en fait, on l'a un petit peu écourté au montage. Je me suis dit, mais c'est marrant, on est dans les années 80. Mais après, je me suis dit, ce qui est terrible, c'est qu'on y est encore. Et donc j'ai eu cette espèce de mouvement entre l'écriture, le moment où on l'a tourné, le moment où on l'a monté. Voilà. Après, je crois que les conflits de loyauté, le rapport des transfuges sociaux, ils existent dans à peu près toutes les communautés. J'ai travaillé avec Teddy Lucie Modeste, qui est un voyageur, quelqu'un qui est de la communauté Manouche. Il y a les mêmes questions peuvent se poser. Elles peuvent se poser pour les femmes, peuvent se poser pour la communauté LGBT, elles peuvent se poser en gros pour tous les discriminés qui arrivent enfin, possiblement, peut-être, dans un moment de lumière et dans un moment où la prise de parole est possible.
Il y a Fianso dans cette série, le rappeur, qui s'essaye à la comédie. C'est pas tout à fait son coup d'essai, mais là aussi, c'est un coup de maître.
Et je vais te dire un secret, cousin. La seule manière de t'échapper de cette prison mentale, c'est justement d'aller au bout de la honte. D'aller chercher au fin fond de toi-même là où la honte est la plus brûlante. Là où tu peux plus respirer tellement ça te brûle les poumons. Et plus ça te brûle, plus tu sais que t'es au bon endroit. Plus tu souffres, plus tu te rapproches de la vérité. Parce que personne va t'aider à t'évader. Personne. personne d'autre que toi-même. Évidemment, tu peux continuer à te mentir et à dire que tu vas devenir un grand pianiste comme les fils de bourgeois.
Qu'est-ce qu'il y a là avec la musique classique, Sabri Louata? Le futur président est marié à une femme non arabe. À mon avis, elle a un prénom venu d'ailleurs, mais plutôt un prénom de l'Est, non? Daria,
non,
c'est
non,
quoi?
Non,
c'est
non,
un
non,
prénom
on l'imagine libanaise.
Ah, libanaise, d'accord. Ouais. Ok, voilà. Elle est chef d'orchestre. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'elle est chef. Elle a le pouvoir. Et elle aussi, au final, elle sera le symbole d'un immense mépris de classe. Son critère à elle, ce n'est pas l'argent, c'est la culture. Elle est d'ailleurs remarquablement interprétée par Amira Khazar.
Oui, non, c'était. Vous mettez le doigt sur quelque chose. C'est vrai que d'une certaine façon, tous les personnages dans Les Sauvages sont. Mais c'est vraiment. J'aimerais insister là-dessus. Quand j'ai écrit les scénarios, en tous les cas, notamment du premier épisode, il n'y avait pas encore Rebecca qui était venue en tant que réalisatrice. Ensuite, d'accord, on a écrit la suite ensemble.
Oui.
Et elle a tout de suite, quand elle a lu mes bouquins et qu'elle est venue sur le projet, elle a tout de suite vu l'importance de la musique classique dedans. Mmh. Et moi, ça m'a touché parce que la musique classique, c'est ce qu'on appelait autrefois la grande musique, et ça permet de projeter des destins assez minuscules en vérité, des destins ordinaires, dans le vent d'une grande histoire, avec un souffle épique et romanesque.
Mais là, c'est le symbole même de la reproduction sociale. C'est précisément ce qui est confisqué à l'ascenseur social.
Vous l'avez
social.
Dit, confisqué, voilà. Ça veut dire que ça devrait être partagé. Et c'est, je crois, ce qu'on fait avec la série.
Il y a deux choses, en fait, que vous évoquez. Bon, le titre, hein, Les Sauvages, ça vient de là. Ça vient d'un
des
passage de La Chaconne des Indes Galantes, donc de Rameau, c'est-à-dire associé, juxtaposé à ce qui était censé être un récit de pop culture, de sous-culture, puisqu'il est question d'immigrés. Là, le grand siècle, la grande musique, et puis des motifs baroques. Deuxièmement, Amira Khazar, qui incarne la femme du président, oui, en faire une chef d'orchestre, c'est revenir à cette idée de la musique classique, donc du grand siècle, mais aussi son mépris de classe. Les mépris sont d'autant plus forts à l'intérieur des propres d'une même communauté qu'entre communautés. Et on le voit très puissamment avec le copain de sa fille.
Vous vivez aux États-Unis, Sabri Louata, mais vous avez grandi à Saint-Étienne.
On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style.
Frisson. Frisson, chair de poule. Saint-Étienne, c'était votre ville d'enfance. C'est la ville où vous avez choisi d'ancrer les romans, Les Sauvages. C'est la ville où vous avez choisi de tourner. Vous n'étiez pas obligé de tourner à Saint-Étienne. J'aimerais que l'un et l'autre vous me racontiez ce qu'il y a dans l'histoire de Saint-Étienne qui puisse nourrir le roman. Et j'aimerais que vous me racontiez ce qu'il y a dans l'image de Saint-Étienne qui puisse nourrir le tournage. Sabri Louata.
C'est bon, Saint-Étienne, c'est encore Rebecca qui en parle le mieux. Elle l'a découverte récemment.
Mais arrête, on va donner l'impression que j'étais le parent pauvre.
En gros, on a fait les repérages, on est arrivé à Saint-Étienne, et j'ai vu Rebecca voir la ville, en fait. Et en la voyant voir la ville, elle s'est exclamée Twin Peaks. Et c'est vrai qu'il y a un côté américain. C'est une ville végétale, c'est une ville nichée au creux de collines. Bon, il n'y en a pas sept, comme ils veulent faire croire. Tout le monde va croire qu'ils ont sept collines. Mmh. Mais il y en a quand même pas mal. Et c'est une ville vraiment particulière, qui a une histoire, qui a une histoire minière, des industries lourdes qui ont périclité. Donc,
et
une ville désindustrialisée.
Et avec cette histoire minière et ces industries qui ont périclité, une histoire de l'immigration en France, une histoire des Arabes de France, que vous réinjectez sans jamais le raconter, mais que vous réinjectez, par exemple, en deux plans dans le générique.
Ça, le générique, c'est vraiment, moi je le trouve superbe aussi pour ça. C'est vous dites que j'habite aux États-Unis, mais j'ai l'impression d'avoir un peu grandi dans une ville américaine d'une certaine façon.
Ah bon?
Une ville qui cumule un peu tous les mots. Genre, si Baltimore a intéressé David Simon dans The Wire, c'est aussi parce que c'était une ville qui cumulait un peu tous les mots d'une société, ou qui était visible à l'état un peu microcosmique.
Il y a le foot à Saint-Étienne. Indissociable de Saint-Étienne, il y a le foot. Alors forcément, il y a les souvenirs de ces deux frères quand ils étaient petits, on laissait pas leur papa entrer au stade. Il y a les souvenirs de ces humiliations. Il y a le racisme des supporters d'aujourd'hui. Et puis, il y a toute une histoire en France, qui sont les matchs contre l'Algérie, ou les matchs avec l'Algérie. Le match de 2001, par exemple, qu'on avait raconté comme le grand match de la réconciliation. Il y avait Jospin dans les tribunes, il y avait les stars de 98 sur la pelouse, et puis ça dégénère complètement, même la Marseillaise est déjà sifflée. Et France 2 ouvrira son journal télévisé le lendemain en titrant « Échec de l'intégration ». Ouais. Est-ce que le foot, est-ce que ces images de foot, est-ce que c'est débord dans les tribunes et autour du stade? Est-ce que là, ça raconte quelque chose que vous avez choisi l'un et l'autre pour dire ce qu'on ne pense pas assez en France?
Bah, c'est des lieux, disons que le stade Geoffroy Guichard, donc qui est vraiment le poumon de Saint-Étienne, le grand monument, la tour Eiffel de Saint-Étienne, j'ai envie de dire. Ce qui est drôle, c'est qu'il c'était pas dans la saga de Sabri Loata.
Ah bon?
Et il n'y avait pas d'épisode, il n'y avait pas de moment qui se passait dans le stade. Et c'est vrai que ça, c'est issu d'un regard d'outsider. Quand moi, j'arrive à Saint-Étienne, je dis à Sabri, alors c'est formidable, les terrils, le clapier, tout ça. Mais il y a un endroit qui est comme la lettre manquante.
La lettre volée.
Ouais. C'est que ce stade, il faut y passer pour plein de raisons. C'est que d'abord, c'est vrai que c'est des endroits de récupération politique d'images puissantes, et nous c'est pas un hasard si on veut rien spoiler, mais il y a un passage très puissant qui concerne une réappropriation d'images, un début possiblement de mandat, en tous les cas on sait très bien ce qui se joue en fait dans ce chaudron qui porte bien son nom, et c'est un chaudron à tout niveau, un stade. C'est un endroit de passion triste, passion joyeuse, de compétitivité, de sportivité, et où c'est un incubateur en fait de rapport à l'identité, c'est comme un drapeau.
Toute génération mélangée.
Voilà.
Mariage à Saint-Étienne, mariage à l'algérienne. Je chante un mot au milieu de ce guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. C'est quoi cette chanson?
C'est Soul King qui est produit par Sofiane Zermani et Affranchi. Ouais. Et c'était magnifique au mariage. Alors moi j'étais sur le tournage au moment du mariage et ce qu'a fait Rebecca. C'était vraiment une des scènes. C'est la scène sur laquelle ouvre le bouquin. Tout le premier tome est uniquement concentré sur le mariage, un petit peu comme The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, où on passe beaucoup de temps dans le mariage et de confier un truc. Là pour le coup il y avait des questions. C'est compliqué quand même. Est-ce que Rebecca, qui est pas d'origine algérienne, est-ce qu'elle allait réussir à le faire? Et il y a eu vraiment aucun problème. Les acteurs se sont emparés de les acteurs.
Ouais, moi, je me suis vraiment posé la question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est rare dans la fiction télé? Qu'est-ce qui est sous-représenté? Les familles arabes ou tout simplement les familles pauvres, les familles prolo?
C'est les deux. Classe et race s'entremêlent de toute façon.
D'ailleurs, ça va de pair. Enfin, souvent, la communauté maghrébine en France, elle est souvent plus représentée du côté du prolétariat ou du sous-prolétariat. J'aime bien dire, il arrive en fronçant
les sourcils. Communauté maghrébine.
Studio. Je voudrais qu'on dise un dernier mot. Chers amis, on a dit, il y a deux frères, deux acteurs absolument magnifiques. Les deux frères,
Juste pour terminer sur Saint-Étienne, parce que c'était le morceau de Bernard Lévillier, le Stéphanois, mon premier assistant, Léonard Vindry, m'avait fait écouter dans les repérages. Ouais. Mais c'est surtout que Saint-Étienne, quand on était en pleine période des Gilets jaunes, quand on était en pleine période de crise des Gilets jaunes, est une ville qui est la 12e de France, mais qui justement racontait ce que ça pouvait être un peu que de s'intéresser à la France périphérique, et qui n'était ni la France des grandes villes, ni la France des quartiers relégués. Et que cette ville-là, cette France-là, c'est vrai qu'on la voit peu dans la fiction, on la représente peu dans la fiction.
C'est ça.
Et que ça faisait partie du projet.
C'est ça. Et je voudrais qu'on dise un dernier mot sur le personnage de la mère, sur l'actrice qui l'incarne. J'ai dit une haine fratricide
Farida
entre
Rawad.
Nazir et Foued. Mais au milieu de ça, cette haine, elle ne tient que s'il y a une colonne vertébrale. C'est la figure de la mère, d'une ambiguïté redoutable, du premier au sixième épisode. Absolument incroyable, Sabri Loata.
Nazir qui est un personnage très compliqué dans l'histoire est écartelé entre sa haine de la France et son amour de sa mère. Et il fallait vraiment deux acteurs extraordinaires pour réussir à jouer ça, parce que c'est très ténu en vérité. On déteste Nazir et au moment où on découvre, notre but c'est de faire passer de la lumière dans toute cette histoire. On raconte une histoire pleine de bruit et de fureur, mais on veut quand même que de la lumière filtre. Et ce qui se passe à ce moment-là dans cette scène en particulier que je veux pas divulgâcher, ça tient vraiment au génie des deux acteurs.
L'une des premières choses qui s'est passée pour moi à Saint-Étienne, c'est que j'ai rencontré la famille de Sabri Loata, notamment sa mère, Hayat.
Coucou maman.
Salut maman. Sabri est très entourée de femmes, les femmes sont assez puissantes, il a perdu son père très très jeune. Et d'une certaine manière, on avait à cœur, et c'est déjà dans la saga, de renouveler la figure en fait des mères d'origine algérienne, qui ne sont plus des matrones, qui ne sont plus des Fatma, plus des femmes de 85 ans, mais des femmes séduisantes, qui ont juste 55 ans, qui sont aussi belles que Farida Rawad.
Et ça crée matriarca. Ali Rebelli, ça suffit. Les Sauvages, ça commence ce soir sur Canal+, ou sur Canal+, série selon votre abonnement. Merci beaucoup d'être venu dans l'Instant M, et vraiment bravo du fond du cœur, bravo.
Merci à vous.